Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 19 juin 2017. C'est Clotilde Seille qui vous parle et qui vous présente ses par actualités, dont les titres du jour sont Accessibilité, la ministre Qualtrough réitère l'engagement du Canada sur la scène mondiale. Le fauteuil roulant qui fait fuir les employeurs. Par manque d'argent, la maison Jean-Eudes Bergeron, vous savez, une ressource intermédiaire spécialisée, risque la fermeture. Je vais en parler aujourd'hui avec le directeur général de la coopérative de services à domicile du Lac-Saint-Jean-Est qui gère la maison Jean-Eudes Bergeron. Rivière-du-Loup, la QDR et la SQ en campagne contre la maltraitance des aînés. À Trois-Rivières, un manque criant de préposés aux bénéficiaires, des solutions mises de l'avant. Une autre entrevue avec Martine Grenier, agente de développement et de communication du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. On fait un petit retour sur la participation du RAM à l'événement Différent comme tout le monde qui s'est tenu le 1er juin au parc Émilie Gamelin. Et aussi à l'émission, les enfants peuvent s'amuser dans un parc et ah oui, et nous irons voir aussi en France combien ça coûte pour avoir un chien guide et est-ce que c'est très différent de chez nous. Alors, accessibilité, la ministre Qualtrough réitère l'engagement du Canada sur la scène mondiale. Du 13 au 15 juin 2017, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, a représenté le Canada à la 10e séance de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui a eu lieu à New York. Dans son mot d'ouverture, la ministre Qualtrough a souligné l'engagement du Canada à l'égard des personnes handicapées, a fait le point sur l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale en matière d'accessibilité, puis a réitéré les engagements du Canada en vertu de la Convention. La ministre Qualtrough a également profité de l'occasion pour annoncer l'adhésion du Canada à la Charte pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire. La Charte vise à améliorer considérablement les conditions de vie des personnes handicapées dans les situations d'urgence. Cette annonce a été faite au nom de Marie-Claude Bibeault, ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie. En outre, la ministre Qualtrough a annoncé que le Canada était désormais membre du réseau Global Action on Disability, le GLAAD. Il s'agit d'un important réseau mondial où les membres peuvent échanger des idées et des leçons apprises sur la manière de promouvoir l'inclusion des personnes handicapées dans le développement et l'action humanitaire. Le fauteuil roulant qui fait fuir les employeurs, c'est un texte d'Alexandre Duval sur le site de iciradiocanada.ca. Au cours de la dernière année, l'équipe du professeur Charles Belmar au département d'économie de l'Université Laval a envoyé pas moins de 1476 curriculum vitae fictifs pour de réels emplois à Montréal et à Québec. De façon réaliste, les emplois visés pouvaient être occupés par une personne en fauteuil roulant, secrétaire, réceptionniste, programmeur et commis comptable. Une seule chose pouvait distinguer les CV pour environ la moitié d'entre eux. La lettre de présentation mentionnait que le candidat se déplaçait en fauteuil roulant. Les compétences, les expériences et les formations étaient identiques, mais le taux de convocation des candidats, lui, ne l'était pas du tout. D'après Charles Belmar, il s'agit du taux de discrimination le plus important jamais observé avec une méthodologie semblable. C'est certainement plus fort que la discrimination basée sur l'origine ethnique, qui elle-même est déjà très forte. Ça nous a extrêmement surpris et un peu choqués naturellement parce qu'on se rend compte que ces personnes-là ont quand même une barrière assez importante à surmonter. Aujourd'hui technicienne au ministère de l'Éducation, Geneviève Imbeau est loin d'être étonnée par ses résultats. Atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'os, une maladie qui affecte sa mobilité et sa vue, elle n'a jamais réussi à décrocher un poste dans le secteur privé malgré plus d'une vingtaine de tentatives. Obtenir une entrevue est un défi, mais décrocher un emploi l'est d'autant plus, selon Geneviève Imbeau. Je trouve qu'il faut se vendre plus que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Geneviève Imbeau croit pour sa part que les employeurs gagneraient à miser sur les travailleurs à mobilité réduite, vu que c'est plus difficile de trouver un emploi après, on veut le garder. Les personnes handicapées, souvent, on va être des personnes stables en emploi, de dire Madame Imbeau, qui lance dans un grand éclat de rire « N'ayez pas peur, on ne mord pas ». Oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup, qui a même fait la une des journaux la semaine dernière. Par manque d'argent, la maison Jean-Eudes Bergeron, une ressource intermédiaire spécialisée, risque la fermeture. Or, la maison Jean-Eudes Bergeron est gérée par une coopérative de services à domicile et je vais parler avec son directeur général, M. Patrick Savard. Bonjour, M. Savard.
Oui, bonjour à vous.
Alors donc, la maison Jean-Eudes Bergeron est une ressource intermédiaire spécialisée, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être pas très familiers, hein, avec le jargon du système de santé, on compte sur vous un petit peu, Monsieur Savard, pour nous dire qu'est-ce qu'une ressource intermédiaire?
OK, donc nous faisons partie là, de ce qu'on peut appeler les ressources intermédiaires. Au Québec, on est 9000 hein, qui sont répartis en plusieurs associations. Donc, quand on parle de ressources intermédiaires, souvent, on va parler de RI. Et dans les 9000, il y a aussi des RTF. Donc, ce sont des ressources de type familial. Mais nous, dans le cas qui nous occupe, là, on est vraiment une RI, donc une ressource intermédiaire. Nous, on est dans l'association qui s'appelle l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec. Donc, on l'appelle l'ARIC.
D'accord.
Et à l'intérieur de l'ARIC, nous sommes 850. Dans ces 850 RI, dont nous faisons partie dans cette association-là, il y a 5 profils de clientèle, dont perte d'autonomie liée au vieillissement, donc les personnes âgées. Il y a un profil aussi santé mentale. Donc, il y a 5 profils comme ça, dont la déficience physique. Donc, nous, la Maison Jean-Yves Bergeron, on accueille, donc on est une RI qui accueille des personnes en déficience physique.
D'accord. Alors, c'est donc votre COP qui l'administre, cette résidence?
Oui, exactement.
Mais...
Donc, oui.
Oui, non, excusez-moi, je voulais juste faire la distinction. Vous l'administrez et c'est le gouvernement qui en assure le financement.
À 100%, exactement.
Bon, d'accord.
Donc, c'est un financement qui vient couvrir à la fois les services et tous les frais qui sont reliés à l'hébergement, à l'administration. Donc, eux vont nous donner un certain montant par année qui, en temps normal, là, on devrait réussir à boucler, là, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Bon, je sais aussi que c'est une place qui est toute neuve, ça, qui a été construite exprès et tout. Là, on parle hein, d'un lieu très, très moderne, hein, c'est bien ça.
Oui, absolument. La maison a ouvert le 7 avril 2014
bon.
Et c'est suite à des appels d'offres que notre CIUS, ici, Samuel Lacongeant, avait fait à l'époque, en 2012, et auquel on a répondu, auquel on a fait aussi là, la planification de projet là, avec les gens. En fait, c'était le C3S, Lac Saint-Jean-Est à l'époque. Là. Il n'y avait pas à ce moment-là la fusion des établissements tels qu'on la connaît aujourd'hui.
Et puis là, donc, vous êtes. Il y a un manque à gagner. Hein. Vous êtes malheureusement, par le gouvernement, desservi en ce moment sur le plan financier. Et même si le gouvernement augmentait ce montant-là hein, pour les besoins des résidents, j'ai cru lire aussi quelque part qu'on resterait en dessous de ce que ça coûterait si ces mêmes résidents-là devaient être envoyés en CHSLD. Donc, on comprend mal, quoi.
Absolument. Donc, actuellement, on reçoit l'équivalent... Bon, on ne reçoit pas l'équivalent. On reçoit 120 $ par jour... par résident pour s'occuper de ces personnes-là.
Oui.
Nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on en aurait besoin de 160 parce qu'actuellement, nous, on est en déficit et déjà sur le plancher avec les employés, il y a une certaine surchauffe, entre guillemets. Donc, nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on aurait besoin de 160 $ par jour. Et on sait que dans le réseau, par exemple, dans un CHSLD, une personne qui va aller... bénéficier de ces services-là va en coûter 250 par jour. Donc, on est encore, en tout cas, on le croit, on est encore bien raisonnable.
Mais oui, mais oui, mais oui. Mais est-ce que vous les croyez quand ils disent, parce qu'ils se sont engagés hein, il y a quelques jours, à dire que non, les résidents ne se retrouveront pas en CHSLD. Croyez-nous. Vous les croyez?
C'est
parce que si vous fermez, ils vont où?
Là, vraiment, il faudrait vraiment poser la question aux gens du CIUS,
Oui.
ici dans notre région.
OK, d'accord.
Maintenant, savoir si je les crois pas, là, vraiment, je peux peut-être on pourrait peut-être leur laisser le bénéfice du doute, là.
Oui, d'accord.
Mais j'aimerais bien vous expliquer aussi, Mme Campagna, qu'est-ce qui nous a mené à ce fameux
C'est pas grave, c'est
déficit-là.
Madame Seille, mais c'est pas grave. C'est parce que
Ah.
vous avez une. Oui, mais c'est pas grave, Monsieur Savard. Vous avez dû parler à Christiane Campagna en prévision de cette entrevue. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Alors donc, allez-y donc, Monsieur Savard, je vous ai
Donc,
interrompu.
le financement insuffisant est expliqué par le fait que nous, on reçoit dans le cadre hein, des ressources intermédiaires un financement qui est sur quatre volets. Donc, il y a un volet qui est soutien et assistance, un volet qui est coût d'opération, un volet qui est valeur immobilière et un volet qu'on peut appeler administration. Donc, la problématique est sur le premier volet au niveau des soins et assistance. Donc, ce sont les heures planchées qui actuellement sont insuffisamment rémunérées. Pourquoi elles sont insuffisamment
Rémunéré.
rémunérées? C'est que il y a ce qu'on appelle l'instrument de classification. Ce n'est plus ni moins là, qu'un questionnaire d'évaluation qui fait que, en bout de ligne, on évalue chacune des personnes qui sont chez nous à la maison et le résultat de cette grille-là donne une cote, donc entre 1 et 6. Et plus la cote est élevée, plus il y a une rétribution financière qui vient avec. Donc, la problématique, et ça, l'ARIC se bat depuis près de 2 ans avec le ministère de la Santé pour justement faire en sorte que cette grille d'évaluation-là soit adaptée à cette clientèle-là. Parce que cette grille-là ne donne pas assez de financement pour tous les heures que ces personnes-là nécessitent sur le plancher. Donc, c'est une grille d'évaluation qui est inadaptée
Ouais, je comprends.
aux besoins des gens. Et ça, l'ARIC, notre association, c'est un cheval de bataille actuellement
Bien sûr.
qui est beaucoup revendiqué.
Bon, autrement dit, c'est pas gagné. Il manque quoi, à peu près 23 000 $. C'est le chiffre qu'on nous a donné depuis quelques jours, quelques semaines. 23 000 $ par mois pour assurer le bon fonctionnement et la survie. On a quand même l'impression que le gouvernement avait l'air assez disposé, en tout cas, à vous aider. Alors, croisons-nous les doigts, Monsieur Savard. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je
Ça me fait
rappelle que
plaisir.
vous, mais je vous en prie, je rappelle que vous êtes directeur général de la coopérative de services à domicile Lac Saint-Jean-Est qui gère la maison Jean-E de Bergeron. Alors, bonne fin de journée, monsieur, et puis bonne chance et bon courage.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Au revoir. La QDR et la SQ en campagne contre la maltraitance des aînés, c'est d'après un papier paru dans infodimanche.com, écrit par Mario Pelletier. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, donc la QDR et la Sûreté du Québec, la SQ, participent à la campagne du Ruban Mauve lors du 15 juin, journée, donc a participé lors du 15 juin à la journée du Ruban Mauve, journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Le vieillissement de la population va s'accentuer. Qui plus est, le Bas-Saint-Laurent vivra cette réalité 10 à 20 ans avant les autres régions du Québec. Alors qu'en 2016, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 24% de la population de la MRC de Rivière-du-Loup, en 2030, elles en constitueront 35%. Considérant un taux de prévalence reconnu de 7%, on estime que c'est 539 personnes de 65 ans et plus qui auraient potentiellement été victimes de maltraitance en 2016. En 2030, ce chiffre atteindra 816 personnes aînées dans la MRC. Au début des années 70, la QDR, donc section Rivière-du-Loup, a collaboré à un projet qui avait permis de former 650 personnes comme vigiles. Nous avons participé à la relance de cette action avec le projet « Je me mets dans la peau d'un aîné ». Présenté par le comité Abus Jamais Plus pour une retraite sereine. Quelques 200 personnes ont suivi l'atelier jusqu'à maintenant, a mentionné René Bélanger, le président de la QDR, section de Rivière-du-Loup. La SQ participe également à la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées dans les activités du comité Abus Jamais Plus pour une retraite sereine. D'abord, le 15 juin, nos policiers ont porté le ruban mauve de la journée mondiale. De plus, dans notre travail, nous avons plusieurs priorités, dont accroître la sécurité des personnes âgées, a noté Dave Ouellette, sergent coordonnateur local en police communautaire. Les victimes d'abus et de maltraitance hésitent à dénoncer leur situation par peur de représailles ou d'abandon. La ligne téléphonique d'écoute et de référence Aide Abus Aîné offre un service anonyme et confidentiel sans frais, accessible partout au Québec tous les jours de la semaine de 8h à 20h au numéro suivant 1-888-489-2287. Je vous redonne ce numéro 1-888-489-2287. Cette ligne téléphonique est malheureusement encore méconnue, mais elle peut être utilisée par une victime, un membre de la famille ou un témoin. À Trois-Rivières, les préposés aux bénéficiaires vivent une pénurie de main-d'œuvre au quotidien. Au bout du rouleau, ils attendent impatiemment que les choses changent, écrit Émilie Vallée dans le Journal de Québec. On est fatigué, épuisé, et là, on a hâte que la relève arrive, a lancé mercredi Liette Saint-Arnaud, qui est préposée aux bénéficiaires depuis 17 ans. C'est justement dans le but d'améliorer leurs conditions de travail que le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, CIUS MCQ, met de l'avant deux solutions, un programme de formation intensive, travail-études et une reconnaissance des acquis. On veut attirer les gens qui auraient travaillé dans le passé ou qui auraient une formation non complétée à venir chez nous. On va les supporter financièrement et on va les embaucher, a expliqué Louis Brunel, directeur des ressources humaines au CIUS MCQ. L'an dernier, 350 préposés aux bénéficiaires ont été embauchés en Mauricie, dans le centre du Québec. En 2017-2018, on espère en recruter 150 de plus, mais encore faut-il être capable de les trouver. Martine Grenier est agente de développement et de communication du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. On avait envie de revenir avec elle sur l'événement différent comme tout le monde, le premier qui s'est déroulé le 1er juin dernier au parc Émilie Gamelin à Montréal. Bonjour Madame Grenier.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien et vous-même?
Oui.
Bon, alors, rappelez-nous cet événement-là. Il avait donc été organisé par le RAM. Et quelle était la mission de cet événement-là? Son objectif, en fait.
Oui, en fait, c'est organisé par PIMO, Promotion Intervention en milieu ouvert. Et en fait, c'était pour promouvoir, c'était dans le cadre de la Semaine des personnes handicapées, la Semaine québécoise des personnes handicapées. C'était le but, c'était de promouvoir l'importance de l'accompagnement pour tout handicap. Évidemment, nous, le RAM, nous étions là pour promouvoir l'importance de l'accompagnement pour les personnes vivant avec une limitation visuelle. Fait que c'est sûr que nous étions là pour dire qu'est-ce qu'on faisait là, au niveau du service d'aide bénévole, les besoins, le type d'accompagnement qui se fait et le besoin de bénévoles.
Oui.
Nous étions là pour ça.
Est-ce que vous avez l'impression que ça a bien répondu, Mme Grenier? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui se sont intéressés à votre travail?
Oui, c'est sûr que quand même beaucoup de personnes sont venues à notre kiosque pour prendre l'information, prendre la documentation. Mm-hmm. C'est sûr est-ce que les gens nous contactent ou pas après? Fait que là, c'est sûr que ça, on n'a pas de contrôle.
Non,
mais,
c'est sûr.
C'est ça. Mais je veux dire, des fois, les gens prennent l'information, mais c'est...
Au moins, l'intérêt est là.
Oui. Les gens trouvaient ce qu'on faisait, l'importance d'accompagner des personnes vivant avec une limitation visuelle. Ils trouvaient ça important, tout ça. Et puis, ils trouvaient intéressant le type d'accompagnement que nous faisions là. Nous, en fait, c'est, je dis tout le temps, c'est de l'accompagnement dans toute activité du quotidien de la personne. Accompagner pour différentes courses, accompagner pour des rendez-vous médicaux. C'est ça, aller au domicile des gens pour lire les papiers personnels, le courrier, différents formulaires, autant sur Internet que papier. En fait, c'est vraiment le quotidien que tout le monde vit.
Aller faire l'épicerie.
C'est ça.
Sortir, même. Aller, je ne sais pas, moi, au théâtre ou tout.
Ça peut être ça aussi.
Ça peut être ça aussi.
C'est ça, avec de différentes courses. Aller magasiner des vêtements, aller à la banque, la pharmacie, à l'épicerie. C'est ça. C'est assez... quand on... on fait des choses sans, mais quand arrive une problématique, on voit qu'on a beaucoup de déplacements, de besoins. Puis c'est sûr que quand la personne ne voit pas, ben ça complique les choses.
Mais oui, mais oui.
L'importance qu'il y ait des bénévoles pour accompagner, là, pour faciliter. Puis ça permet, je dis tout le temps, oui, la personne a besoin d'un bénévole pour faire ces choses-là du quotidien, mais ça reste que ça permet son autonomie. Là,
mais oui, bien
parce
sûr.
Parce que les bénévoles accompagnent, ne sont pas là pour faire à la place. Fait que la personne, ben, c'est avec de l'aide, mais c'est quand même elle-même qui va faire son épicerie. Fait que,
bien sûr.
Ça permet dans tout son quotidien, sa participation sociale, tout ça. T'sais, si elle n'a pas ses comptes à payer, tout ça, je veux dire, la personne, c'est sa participation sociale. Là,
faut qu'elle paie ses comptes.
Tout ça, là, fait que c'est ça. Fait que l'aide est vraiment, vraiment importante, vraiment utile. Puis,
mais est-ce que vous suffisez à la demande, Mme Grenier?
Je dirais non, parce que c'est sûr que on peut pas, c'est impossible de répondre à 100%
tout le monde,
des demandes, c'est impossible. Là. C'est sûr qu'il y a des périodes, comme bon la période estivale, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ne sont pas disponibles, les vacances, tout ça.
Mais
il y a
oui.
des étudiants qui partent, ils en profitent pour aller en vacances à l'étranger.
Mais oui, bien sûr.
Des étudiants de l'étranger qui viennent ici, qui retournent dans leur famille, fait que c'est sûr.
C'est plus dur en été, c'est sûr. Mais dites-moi, Madame Grenier, est-ce que ça fait partie le 1er juin, ce que vous avez fait, ça faisait partie d'une campagne qui s'appelle On sort ensemble, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce que ça.
Ça
se poursuit, cette campagne-là?
Ben
et qu'est-ce
fait,
qu'on peut faire aussi?
C'est ça, cette campagne-là, oui, c'est en fait, c'était le lancement, mais ça va durer un an.
OK.
Puis c'est sûr qu'il va y avoir toutes sortes, c'est plus à ce moment-là, plus PIMO qui s'occupe de ça. Là. Nous, c'était dans le cadre de cette journée-là, mais le lancement de la campagne, c'est sûr que ça dure plus longtemps que
d'accord.
ça, c'est sûr un an, parce que c'est sûr que le but de cet organisme-là, c'est d'aller chercher que le gouvernement finance, parce de financer l'accompagnement. Parce que ça peut pas juste suffire, c'est sûr que nous, on est des, comme on dirait, première ligne.
Oui, bien sûr.
Les autres, ils veulent pas enlever le travail fait par des organismes, par des bénévoles, mais les bénévoles ne peuvent pas suffire à toute la tâche parce que le besoin est énorme.
Bien sûr, c'est clair.
Pour notre organisme comme pour les autres.
Madame Grenier, je vais être obligée de vous interrompre, hein, mais ne vous inquiétez pas. Vous savez, je vais présenter un nouveau magazine cet été entre midi et 1h qui va permettre justement à des organismes comme vous de venir nous présenter spécifiquement vos activités d'été. Alors, on va se reparler prochainement dans ce nouveau magazine qui va s'appeler Aime l'été, qui sera présenté du lundi au vendredi de midi à 1h. Et puis, je vous garantis qu'on va vous réinviter pour que vous puissiez nous parler de toutes les activités estivales présentées par le RAM.
Parfait.
D'accord.
Mais un gros merci pour votre
collaboration. Mais je vous en prie. Mais
bonne
de rien, Madame Grenier. Bonne journée. Au revoir. Combien de Canadiens sont aveugles ou malvoyants? Eh bien, d'après Stéphane Parent, qui a écrit dans rcinet.ca, on estime qu'en 2012, 3% des Canadiens, soit environ 756 300 adultes, souffraient d'un handicap visuel limitant les activités quotidiennes. Or, en 2017, on estimait que ce pourcentage de Canadiens souffrant d'un problème de vision est en augmentation. L'avenir s'annonce plus sombre pour de plus en plus de Canadiens et on en voit déjà l'expression auprès des enfants au pays. Un enfant sur quatre au Canada a maintenant des problèmes de la vue qui, s'ils ne sont pas diagnostiqués à temps, pourraient les conduire plus tard à la myopie ou à la cécité. Le phénomène serait lié à l'utilisation de la technologie informatique et des écrans. Plus de 50% des élèves canadiens de la 6e à la 12e année passent en moyenne plus de 2 heures par jour devant un écran électronique. Malgré l'épidémie ou la pandémie de myopie, le problème de la déficience visuelle a diminué partout dans le monde, dans son ensemble depuis le début des années 90, et ce, en dépit d'une population mondiale vieillissante et les nouveaux dangers que représentent les technologies informatiques. Cette diminution est principalement imputable à une réduction des déficiences visuelles dues aux maladies infectieuses. Environ le tiers des Canadiens ayant une déficience visuelle ne sont pas membres de la population active. Il faut savoir aussi que le taux d'emploi des Canadiens vivant avec une perte de vision est très bas, soit 38% contre 73% dans le cas des personnes non handicapées. Près de la moitié des Canadiens aveugles ou ayant une vision partielle ont un revenu annuel de 20 000 $ ou moins. 35% des étudiants canadiens ayant une déficience visuelle ont abandonné leurs études. Prévoir de manière fiable si un chien ferait un bon guide d'aveugle, est-ce que c'est possible? C'est ce qu'Anne-Sophie Tassard s'est posé comme question. La réponse est dans scienceetavenir.fr. Former un chien pour qu'il devienne guide d'aveugle est un processus long et coûteux. Des chercheurs de l'Université de Nottingham en Angleterre ont donc mis au point un test particulier qui permettrait de déterminer dès son plus jeune âge si l'animal est apte à suivre la formation. L'évaluation, présentée le 14 juin 2017 dans PLOS One, prend la forme d'un questionnaire en 39 points rédigé grâce à la littérature scientifique et à des demandes particulières émises par les éducateurs canins. Le document est à remplir par ces derniers lorsque le chiot atteint les âges de 5, 8 et 12 mois, permettant ainsi d'évaluer quotidiennement l'animal. Actuellement, en Angleterre, le comportement des chiots est testé lorsqu'ils ont entre 6 et 8 semaines, c'est-à-dire avant qu'ils n'entrent dans la phase la plus coûteuse de la formation. Cette évaluation permet de refouler 3% des apprentis, cependant, en moyenne, 27% des restants sont également réformés plus tard dans la formation. Sont notées l'excitabilité, l'anxiété, la capacité d'adaptation, la sensibilité corporelle, la distractivité, la capacité d'apprentissage et la peur des escaliers. Les résultats obtenus doivent servir aux professionnels à prendre une décision concernant une éventuelle réforme de l'animal. Il en coûte combien pour former un chien en Europe? Eh bien, il en coûte 25 000 €, notamment en France, où les chiots précédemment sélectionnés sont placés en famille d'accueil de 2 à 12 mois, puis entrent à l'école pour recevoir leur éducation si spéciale, qui fera d'eux de véritables guides, évitant ainsi les obstacles, les passages piétons, la présentation des portes, etc. Et vous savez qu'environ 6 mois plus tard, le chien doit passer avec succès un certificat d'aptitude. D'ailleurs, c'est ce qu'expliquait également à Science et Avenir Laurence Berthaud, éducatrice à l'Association des chiens guides de Paris dans la revue Science et Avenir. Voilà. C'est ainsi que se referment les paractualités du jour en ce 19 juin 2017. C'était Clotilde Seille qui vous présentait ces informations, qui vous remercie d'avoir été là, qui vous souhaite une excellente journée et qui vous donne rendez-vous pour les paractualités demain matin à 11h30.